Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On ne pourra pas reprocher à Bayer de s'embarrasser du candiraton. Mercredi dernier, le groupe allemand annonçait qu'il rachetait l'américain Monsanto, une des entreprises les plus détestées au monde. Montant de la transaction, 59 milliards d'euros. Or, sachant qu'a priori, les dirigeants de Bayer sont des gens raisonnables, comment expliquer une telle prise de risque à un tel prix ? Eh bien, c'est assez simple. Bayer n'est pas seulement un géant de la pharmacie, mais aussi de l'agrochimie. Monsanto, lui, est un des principaux producteurs de semences. Réunissez les deux et vous obtenez une entreprise en mesure de contrôler une partie de la filière agricole, les graines et les pesticides qui vont avec. Alors, ce mariage n'est pas un cas isolé. Depuis quelques mois, les grands semenciers et agrochimistes mondiaux opèrent des rapprochements, lesquels d'ailleurs doivent obtenir l'agrément des différentes autorités de la concurrence avant d'être validés. Le résultat attendu, c'est une concentration de plus en plus forte du secteur et donc, a priori, un moindre choix pour les agriculteurs. Faut-il s'inquiéter d'une telle standardisation qui, si elle n'est pas nouvelle, est de plus en plus poussée? Bayer Monsanto, une menace pour la diversité agricole? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités, à commencer par vous, Nicole Ouvrard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'Association française des journalistes agricoles, et par ailleurs rédactrice en chef du Betteravier français, qui est le magazine de la profession betteravière qui couvre, qui va au-delà d'ailleurs des simples ou des seuls producteurs de betteraves. Pour discuter avec vous, Jean-Pierre Lebrun, bonsoir.
Bonsoir.
Maraîcher bio dans le Maine-et-Loire, enfin maraîcher, vous l'étiez encore il y a quelques années, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous êtes membre du réseau Semences Paysannes, vous êtes administrateur de ce réseau, membre de la Confédération Paysanne. Peut-être d'ailleurs avant de présenter notre troisième invité, dire en quelques mots ce que sont les semences paysannes.
Alors, la pratique des semences paysannes est millénaire. Depuis que l'agriculture existe, les paysans ont toujours trié leurs semences, leurs meilleurs grains pour les ressemer l'année d'après. Avec l'apparition de la profession semencier et le développement de l'agriculture industrielle, les agriculteurs ont abandonné cette pratique de garder leurs meilleurs grains pour faire leurs semences.
Et donc vous, à travers ce réseau, vous essayez justement de revenir à ces pratiques-là. On va avoir l'occasion évidemment d'en discuter, mais enfin voilà, on a déjà un petit peu compris que c'était des semences qui étaient gérées, disons, et contrôlées par les agriculteurs et sélectionnées, pas par les semenciers industriels. Notre troisième invité, il n'est pas en studio avec nous, mais il est dans les studios de France Bleu Loire Océan à Nantes. Il s'agit de Bruno Parmentier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous avez dirigé autrefois l'École supérieure d'agriculture d'Angers, vous défendez une agriculture écologiquement intensive, ce qui peut toujours sembler être un oxymore. Vous avez publié aux éditions de la Découverte en 2014, Fin zéro, en finir avec la faim dans le monde. Alors avant d'évoquer les conséquences de ce mariage, de ce rachat de Monsanto par Bayer, et d'ailleurs d'autres projets de concentration. J'aimerais avoir votre avis sur ce phénomène justement poussé de concentration. Est-ce que vous diriez, Nicole Ouvrard, qu'on est face à une concentration sans précédent dans les secteurs semenciers et agrochimiques ?
Sans précédent, on a connu déjà, hein, comme vous disiez tout à l'heure, on a connu déjà des grandes concentrations. Là, on monte encore d'un cran. Jusqu'où on va aller, on ne sait pas. Effectivement, on commence à avoir un nombre très restreint de groupes semenciers, enfin de groupes de à la fois agrochimiques et semenciers dans le monde, effectivement.
Voilà, parce qu'on monte d'un cran, pas seulement à travers le rachat de Monsanto par Bayer, mais il y a aussi le chinois Shemshina qui a le projet de racheter le suisse Syngenta.
Syngenta, voilà,
pardonnez-moi sur la prononciation.
Donc Syngenta qui effectivement a racheté par donc ChemChina pour 43 milliards de dollars.
Et puis il y a une fusion et aux États-Unis entre deux grands groupes,
DuPont et Dow Chemical. Donc là, on est plutôt sur une fusion et je crois que c'est pour un montant autour de 66 milliards de dollars. Donc effectivement, on remonte encore d'un cran par rapport à ce qu'on connaissait au niveau mondial.
Bruno Parmentier, est-ce qu'il y a une logique économique, j'imagine que oui, dans ces projets de fusion, de rapprochement qui se succèdent là et qui se rapprochent de plus en plus?
Oui, il faut voir que on comptait les entreprises de semences et de pesticides sur les deux doigts, les deux mains. Maintenant, on les compte plus que sur une main. Voilà. Il n'y a plus que trois grands groupes et un moyen qui n'a pas été racheté, qui est BASF. Donc finalement, il y a quatre grands groupes, quoi.
À condition, je le disais, que les autorités de la concurrence donnent leur feu vert. Mais c'est quoi la logique de cette concentration?
La logique. Il faut se rendre compte que, par exemple, Bayer Monsanto disent, on va mettre 2,5 milliards d'argent dans la recherche tous les ans. Soit trois fois, pour situer, trois fois plus que l'INRA, qui est un très grand centre de recherche. En fait, y a une triple convergence. On s'est aperçu avec les OGM qu'il y a une convergence entre les semences et les pesticides, puisque une partie très importante des OGM, c'est des OGM compatibles avec un pesticide. Et maintenant, il y a une nouvelle convergence avec le big data, l'information. Et d'ailleurs, un des grands enjeux de cette fusion, c'est intégrer toutes ces données extraordinaires qu'on va pouvoir cumuler et interpréter entre la fertilité de la terre, le temps, et les pesticides, les semences, etc. Et pouvoir proposer aux agriculteurs un ensemble absolument complet, y compris avec la gestion de la météo. Il va y avoir besoin d'énormément d'investissements recherche là-dessus, et ils espèrent avoir énormément de chiffres d'affaires là-dessus. Et donc, ils s'unissent, et là, Bayer, il est plutôt bon dans les pesticides et pas très bon dans les semences. Monsanto est très bon dans les semences et pas très bon dans les pesticides, même si il en a un qui fait couler beaucoup d'encre, le Roundup, mais qui dont le brevet est terminé, donc il est plus tout seul à le faire. Et donc, ensemble, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir investir beaucoup plus et prendre des parts de marché beaucoup plus importantes.
Bon, alors cette cette idée de pouvoir proposer aux agriculteurs une offre assez complète, semences, engrais, pesticides, conseils, des données aussi, comme vous le disiez, Bruno Parmentier, avec le big data. A priori, ça peut être quelque chose d'assez attirant, Jean-Pierre Lebrun, pour les agriculteurs. C'est-à-dire, finalement, c'est relativement pratique de se dire, on a une offre globale et on peut justement avoir un seul interlocuteur. Donc, ça facilite peut-être les relations et la production, du coup.
C'est attirant. Ça dépend quelle agriculture on pratique. Si on veut vraiment coller à son territoire, coller à son réseau de clients, coller à ce qu'on aime faire, je pense que il y a suffisamment d'intelligence dans la tête des paysans pour se passer de tout ce que Monsieur Parmentier vient d'évoquer, qui est sur le plan intellectuel et peut-être une réponse à certaines choses. Mais je reste très confiant dans la capacité des paysans à être capables de produire pour nourrir l'humanité sans Bayer ni Monsanto. Mais simplement, il faut qu'ils soient formés pour le faire.
Si les paysans avaient un bon sens aussi développé par rapport à ces grands de l'industrie, et normalement ça fonctionnerait moins. Donc c'est bien qu'ils y trouvent aussi un intérêt. Ou bien est-ce que vous considérez, Jean-Pierre Lebrun, qu'ils se trouvent d'une certaine manière forcés de le faire, c'est-à-dire forcés de choisir ces interlocuteurs-là?
C'est toute l'histoire de l'agriculture où on a enfermé le modèle de développement autour de l'agriculture industrielle. Il faut simplement rappeler que l'ensemble de l'humanité couvre plus son alimentation avec l'agriculture paysanne. Hein. L'agriculture industrielle, elle est réservée à nos pays riches. Mais évidemment, les industriels tentent d'étendre leur zone d'influence. Mais nous pensons que les problèmes de faim dans le monde se résoudront avec une paysannerie formée et adaptée à son contexte local et sans dépendre des brevets de Monsieur Bayer ou de Monsieur Monsanto.
Alors sur cette question des fusions et des rapprochements, Nicole Ouvrard, et je poserai d'ailleurs la même question à Bruno Parmentier, est-ce que vous y voyez la volonté de contrôler d'abord la filière, c'est-à-dire en étant là du départ jusqu'à la fin, et également peut-être d'imposer un modèle agricole, Nicole Ouvrard.
Le modèle agricole, Bayer ou Monsanto ou Syngenta ou les autres, ils sont dans le même modèle agricole. Et je dirais que aujourd'hui, qu'ils se regroupent ou pas, ça ne va pas changer considérablement ce fameux modèle agricole. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, en tout cas en Europe, là, on est dans ce modèle, on va dire, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est, d'une certaine façon, au bout d'un système, c'est-à-dire que on a beaucoup utilisé les produits chimiques et on voit aujourd'hui arriver des problèmes de résistance des mauvaises herbes aux herbicides, de résistance des pathogènes aux fongicides. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui un mouvement en agriculture en France, mais aussi ailleurs, pour réintégrer l'agronomie dans l'agriculture conventionnelle. Monsieur Parmentier travaille aussi beaucoup sur cette question. Et je dirais que globalement, les firmes phytosanitaires et semencières sont plutôt partantes là-dedans, parce qu'aujourd'hui, elles voient que leurs produits chimiques, où on est en fait sur un très petit nombre de familles chimiques, parce qu'on a supprimé les molécules les plus toxiques, comme disait M. Parmentier là aussi, pour trouver une nouvelle molécule, en fait, ça coûte très cher. Il faut en gros 250 millions d'euros pour développer une molécule. Donc le nombre de molécules est restreint. Et donc il y a peu de solutions et il faut réintégrer l'agronomie.
Donc la concentration servirait au fin du fin à une nouvelle diversification
Non, je crois que la concentration est liée au fait qu'ils ont énormément de besoins de recherche en fait. Ils ont énormément de besoins financiers pour développer de nouvelles semences, de nouvelles molécules chimiques. Donc c'est plus lié à un besoin de recherche et à une assise financière.
Bruno Parmentier.
Oui, il faut voir que depuis 50 ans, la chimie qui s'est développée, elle niait la vie du sol. Elle consistait à dire, on redémarre à zéro tous les ans, on remue tout avec des charrues de plus en plus profondes, et puis on met des produits chimiques, et puis on fait comme si le sol n'était qu'un support, mais n'était pas l'essence même de la vie. Et donc, on voit que ça a des inconvénients. C'est-à-dire, on n'arrive plus à augmenter de façon significative les rendements agricoles dans le monde. Il faut passer à une autre agriculture. Et cette autre agriculture, elle va nécessiter énormément de recherches. Je veux juste donner un chiffre, par exemple. Dans un mètre carré de sol, il y a 260 millions d'êtres vivants. On n'en connaît pratiquement aucun. Et le big data, notamment, va être absolument fondamental maintenant, parce que il va falloir maintenant commencer à comprendre sur quoi on marche, de quoi il fait le sol, pour arriver à une chimie très différente, une chimie qui aide ces organismes vivants à faire leur travail, plutôt que de les tuer et d'appauvrir la fertilité des sols. Et ça, c'est de nouveau un énorme effort de recherche qui va être partagé, comme le disait monsieur, à partir de l'expérience cumulée génération après génération des différents agriculteurs qui savent que ça marche chez moi et ça marche pas, etc. Mais finalement, même l'agriculteur le plus bio des bio, il en connaît très peu des 260 millions.
Mais Bruno Parmentier, est-ce que des entreprises...
Au tout début d'une nouvelle révolution.
Bruno Parmentier, est-ce que des entreprises qui, comme, alors puisque c'est Bayer Monsanto qui nous a donné envie de faire cette émission, qui fusionnent, qui se concentrent, sont les mieux placées justement pour enclencher ce changement de modèle? J'imagine que moins il y a d'entreprises, moins il va y avoir de diversité dans les produits qui sont proposés, parce que pour que ça soit rentable à un niveau industriel, il faut bien qu'on limite le nombre de produits qu'on commercialise. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de se dire il faut de la concentration pour développer l'effort de recherche, mais en même temps, derrière, on risque de se retrouver avec de moins en moins de variétés disponibles?
Évidemment. Enfin, moi, je suis pas là au titre de Monsanto ou de Bayer. Hein. D'ailleurs, c'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'autour de la table, vous n'avez personne de Monsanto et de Bayer. C'est typique de l'état d'esprit, on pourrait dire en France, que c'est plutôt considéré comme les méchants, quoi. Voilà. Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, s'il y a plus que 3 entreprises qui, quelque part, produisent tout ça, c'est un risque gigantesque pour les agriculteurs. La différence de taille est absolument telle que les agriculteurs seront pieds et poings liés. Mais en même temps, eux disent, par exemple, bah, toutes ces entreprises, on va résoudre la faim dans le monde, ça n'a rien à voir avec la faim dans le monde. Hein. Les 800 millions de gens qui ont faim dans le monde, c'est les petits paysans du tiers-monde. Il faut arrêter de les empêcher de se nourrir eux-mêmes. Et eux ne vont pas être des clients Bayer-Monsanto, ils n'ont pas le sou. Donc ça, c'est réservé à une agriculture très industrielle, très chargée en capital, qui est dans certaines zones du monde pour nourrir les grandes villes du monde. Mais la moitié de l'humanité, elle mange pas du tout de cette agriculture-là. Donc faudra les deux. Mais si cette agriculture-là empêche l'autre agriculture de survivre, eh ben effectivement, la faim va augmenter. Cette fusion, elle sert à nourrir les grandes villes du monde près des ports. Elle ne sert pas à nourrir l'ensemble de l'humanité. Et effectivement, je ne sais pas s'ils seront clairvoyants ou pas et qu'ils mettront de la diversité, mais cette idée de monopole, en général, partout, c'est beaucoup moins de produits, de plus en plus cher.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites, Bruno Parmentier, que finalement, ce soir, on n'a pas invité Monsanto parce qu'on pourrait considérer qu'ils sont de grands méchants? Pas tout à fait. Tiens, écoutez la façon dont Monsanto essaie de vendre ses produits aux États-Unis.
The conversations we're having are about the food itself. How good it is for us. How good it is for the planet. At Monsanto, we're having these conversations every day. And we're working with farmers to help make balanced meals accessible to everyone. While using natural resources more efficiently as our population continues.
Voilà, publicité qui dit à peu près ceci. On parle de plus en plus souvent de nourriture, de la façon dont on se nourrit, dont on produit de la nourriture et comment ça peut être bon pour la planète. Et Monsanto participe justement directement à cette question et travaille avec les agriculteurs pour justement participer à ce défi qui est celui de nourrir la planète. Jean-Pierre Lebrun, quand vous entendez ce genre de choses, ça vous évoque quoi? Et est-ce que vous êtes d'accord finalement avec la séparation que faisait Bruno Parmentier il y a un instant? C'est-à-dire on a des grandes firmes industrielles qui sont là pour nourrir les villes et puis on a toute une autre agriculture qui est beaucoup plus importante sans doute, même si elle est plus disséminée. Et celle-là, elle peut aussi avoir du mal justement face à la raréfaction des espèces et des semences qui sont proposées.
Bien sûr, il y a les deux existent et il ne faut pas qu'elles se gênent. Et là, le danger avec cette fusion très importante, ce sont les brevets qui sont derrière. Et je voudrais quand même, avant de parler de la question des brevets, rappeler l'histoire du milieu de la semence. Parce que il y a 50 ans, il y avait une petite centaine d'entreprises, peut-être plus même, d'entreprises de semences. Et au fil du temps, ces entreprises ont été rachetées par ces groupes chimiques. Monsanto aujourd'hui est la plus importante maison de semences potagère au monde. Il y a 25 ans, ils ne touchaient pas une graine. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en touchent beaucoup. Parce que ils ont une telle puissance informatique que avec le big data dont parlait Monsieur Parmentier, avec le décryptage du génome, ils sont en train de nous fabriquer des semences de façon virtuelle avant de nous les faire vraiment. Donc
ça c'est vrai pour toutes les espèces. Et la connaissance du génome, c'est vrai pour toutes les espèces et ça a plutôt tendance à accélérer la sélection et c'est sans doute vrai en potagère, c'est vrai dans les autres espèces, c'est vrai aussi en sélection animale. Je ne pense pas que ce soit ça qui va détruire la totalité de la sélection et de la diversité variétale.
Est-ce qu'on peut dire en tout cas, Nicole Ouvrard, est-ce qu'on peut répondre finalement assez simplement déjà à cette question, de se dire plus le secteur des semenciers de l'agrochimie se concentre, plus la diversité des plantes diminue. Est-ce qu'il y a, une corrélation qui est absolument avérée?
On peut effectivement imaginer que des sociétés qui regroupent leur programme de sélection se focalisent sur le meilleur, on va dire, de leur génétique et en oublient en fait une partie. Et effectivement, c'est un risque. C'est un risque, effectivement, de d'ailleurs, il y a d'ailleurs des sélectionneurs qui reconnaissent qu'ils ont, au fil du temps, abandonné une partie de leur diversité génétique et qui essaient aujourd'hui de la retrouver. Alors, je peux vous donner un exemple très concret, si vous le souhaitez, dans le secteur que sur lequel je travaille, qui est la betterave sucrière, où il y a un sélectionnaire français qui s'appelle Florimond Després, qui travaille avec un institut technique, l'ITB, l'Institut technique de la betterave. Et ils ont démarré un programme de génomique qui s'appelle ACARE. Et ils sont allés de par le monde chercher toute la diversité qui existe en betterave sauvage et cultivée pour la réintroduire dans leur programme de sélection. Parce qu'effectivement, au cours du temps, on a oublié une partie des gènes intéressants et on peut ainsi retrouver des gènes de résistance à des maladies, par exemple. Et aujourd'hui, on a besoin de la résistance aux maladies génétiques pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment l'avenir. C'est qu'effectivement, pour remplacer les produits phytosanitaires, il faut retrouver une diversité génétique et de la résistance variétale.
J'ai trouvé sur le site Semences Paysannes dont fait partie Jean-Pierre Lebrun. Aujourd'hui, quelques variétés de blé très proches génétiquement les unes des autres couvrent 80% de l'assolement annuel en blé et 80% des légumes cultivés il y a 50 ans ont disparu. Alors, je voudrais qu'on aille sur la question à présent, parce qu'on est déjà à plus de la moitié de l'émission, de la réglementation. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que la réglementation aujourd'hui favorise justement à la fois et cette concentration et cette diminution de la diversité dans le monde des semences? Bruno Parmentier.
Alors, on va voir déjà. Est-ce que les commissions antitrust américaines et européennes vont accepter finalement ces énormes regroupements? Parce que pour le moment, ça doit passer devant. Et même y compris l'autre fusion des deux Américains, la Dow et DuPont, c'est pas encore accepté. Apparemment, quand les Chinois ont acheté Syngenta, ça a été accepté. Bon, on va voir. Mais bon, le politique a quand même son mot à dire. C'est quand même extraordinaire de voir que Monsanto apparaît comme une entreprise très très puissante et il n'y a pas d'OGM en Europe. Donc l'opinion publique européenne a finalement été plus fort que la capacité de lobbying de Monsanto. Alors maintenant que Monsanto est une entreprise allemande et non plus américaine, le nom Monsanto va certainement disparaître. On va voir ce qui va se passer. Mais effectivement, que font les politiques là-dessus? Et en particulier, dans les semences, la réalité, c'est que il y en a que pour les gros. Ça coûte tellement cher de déclarer une semence pour qu'elle soit autorisée, que finalement tout cet univers des semences paysannes est complètement exclu de la commercialisation. On peut toujours ressemer ses propres semences, enfin sauf si elles sont stériles, sauf etc. Mais on ne peut pas les déclarer et les vendre. Et donc c'est vrai que pour le moment, les réglementations d'un côté en Europe, elles ont interdit les OGM, mais de l'autre côté, elles empêchent les petits producteurs de semences d'accéder au marché parce que le coût de la labellisation d'une semence est trop importante.
Voilà, cette labellisation, elle se fait via le catalogue officiel des espèces et variétés. Alors, c'était justement sur cette question de la réglementation.
Il faut se rendre compte que, par exemple, Monsanto, actuellement en France, il est très impopulaire, mais c'est un hectare de colza sur deux, un hectare de maïs sur six. Monsanto, c'est des semences de laitue, de melon, de poireaux, d'oignons, de chou-fleur, de brocolis, etc., etc. Et donc, il faut se rendre compte de la disproportion. C'est la seule entreprise, à ma connaissance, qui a généré une journée mondiale contre elle. Bon, le jour de la journée mondiale contre Monsanto, à Paris, il y a eu 1500 manifestants. Dans le même temps, c'est le quart de la surface agricole française qui est plantée avec des semences Monsanto. Et ce Roundup, quelque part, qui est un peu le symbole de la pollution, eh ben, 300 000 agriculteurs et 2 millions de jardiniers du dimanche en achètent tous les ans.
Alors, restons justement sur cette question de la réglementation et sur la difficulté qu'il peut y avoir. Parce que... certain nombre de nos auditeurs, à commencer peut-être d'ailleurs par moi, ne connaissent pas forcément très bien ce secteur de la semence, mais sur la difficulté, alors à quoi ? À réutiliser, Jean-Pierre Lebrun, des semences, à les échanger éventuellement avec d'autres agriculteurs et à faire quoi ? Homologuer certaines semences officiellement, justement pour permettre l'échange. C'est quoi les principales difficultés aujourd'hui quand on veut justement réutiliser des semences ou les faire, voilà, ou les échanger?
Ben, les réglementations sur les semences se mettent en place en France et dans le monde depuis la dernière guerre. Et elles ne se sont toujours faites que dans le sens de l'intérêt du semencier. Donc, c'est un métier qui se trouve extrêmement protégé par ces réglementations. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire...
C'est-à-dire, par exemple, j'achète des semences, alors imaginons, les prenons Limagrain, je crois, Limagrain, pardon, ça fait partie des acteurs français chez les semenciers. J'achète des semences chez Limagrain, si je veux, l'année d'après, l'année suivante, réutiliser ces semences, je vais devoir quoi ? Je vais devoir lui demander l'autorisation ? Je vais devoir lui payer quelque chose ?
Alors, ça dépend si votre variété, la variété que vous avez achetée est récente. Si elle a moins de 25 ans, elle est protégée par un certificat d'obtention végétale la réglementation actuelle impose à quelqu'un qui ressème une variété qui est protégée à payer la CVO, contribution volontaire obligatoire, excusez.
Des royalties. En
fait. Qui est une forme de royalty qui a été mise en place par la réglementation internationale de l'UPOV de 1991 et qui est appliquée en France depuis la loi de 2011.
Là, il y a une forme de logique de propriété intellectuelle, Nicole Aubrin.
C'est pas une forme, c'est de la propriété.
C'est de la propriété intellectuelle.
En fait, en Europe, on a un système qui est particulier, qui n'est pas le brevet, qui est le certificat d'obtention végétale. Et ce système permet à un agriculteur, de pouvoir ressemer sa propre semence à condition qu'il ne la commercialise pas. Hein, c'est ce que monsieur disait. Et au semencier de pouvoir réutiliser n'importe quelle variété qui est autorisée pour pouvoir sélectionner à nouveau des nouvelles variétés qu'il aura le droit de mettre sur le marché. Donc, il n'a pas, en fait, c'est ça l'originalité en fait de ce système, c'est que ça permet une certaine liberté pour pouvoir sélectionner. On n'est pas dans le brevet où à chaque fois qu'on utilise une variété qui a déjà été brevetée, il faut repayer des royalties.
Mais est-ce que ça favorise plutôt les gros semenciers, ce système-là ?
Bah, on est effectivement dans un système où effectivement, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est ça qui pose problème par rapport aux petits semenciers ou aux gros semenciers.
Non, mais le problème, c'est un problème de société en général.
Oui.
Il n'y a pas que cette histoire de semences. La grande distribution, par exemple, en imposant des normes, force les semenciers à réduire leur pool génétique vers ce que veut la grande distribution. Et puis, il y a plein de facteurs comme ça qui contribuent à limiter la biodiversité.
Mais les choses changent, doucement.
Et puis, je pense qu'au niveau du réseau semences paysannes, on y contribue largement parce que en remettant de la diversité dans nos cultures, on recrée de la biodiversité. Et le problème, je vous reprends un peu sur la différence COV-brevet, c'est quand même que même si l'Europe a choisi donc le système COV par rapport aux Américains qui ont choisi de breveter les variétés, n'empêche que l'Office européen des brevets a enregistré un nombre assez incroyable de demandes de brevets sur des semences, hein, sur des informations génétiques ou sur
des gènes, en fait.
Ou sur des gènes ou sur des transformations génétiques. Et il se trouve par hasard que Bayer est le plus gros détenteur de brevets sur les semences à l'Office européen des brevets. Et moi, j'ai envie de dire que, comme le disait Monsieur Parmentier tout à l'heure, c'est une question éminemment politique. Hein. On est en train, avec cette fusion, de vivre le TAFTA avant qu'il soit signé. Et je crois qu'il va falloir que vous changiez le titre de votre émission. C'est pas du grain à moudre, c'est des brevets à moudre.
Bruno Parmentier, on va y réfléchir, Jean-Pierre Lebrun. Bruno Parmentier.
Alors, il faut se rendre compte qu'en plus, les semences, pour le moment, ont été sélectionnées pour produire toujours plus à l'hectare, avec tout un environnement industriel très important, et avec une météo qui bouge pas. Or, la réalité, c'est qu'avec le réchauffement de la planète, la météo bouge énormément, et qui dit météo dit maladie, épidémie, etc. Et donc maintenant, il y a un nouveau défi, qu'il faut à la fois viser la productivité et la résilience. Parce que par exemple, le blé cette année, il a pourri parce que le printemps était trop humide, 30% de moins. Donc ça fait une belle jambe d'acheter une semence qui promet beaucoup. S'il pleut trop, c'est moins. Et si il fait trop chaud, c'est moins. Et s'il y a des nouvelles épidémies, etc., c'est moins. Et donc cette idée de mettre tous nos œufs dans le même panier, et le panier étant univoque, la productivité à l'hectare doit être revisitée fortement avec ce réchauffement climatique qui fait qu'on va avoir des années plus chaudes, des années plus humides, des années avec plus d'attaques d'insectes, de maladies. Et est-ce que ces grands monopoles auront la sagesse de comprendre ça et de réintroduire plus de diversité, ou est-ce qu'ils vont continuer avec la logique entre guillemets monopoliste, monocolore, c'est ça, je t'explique comment faire, avec cette arrogance que va donner le big data, je sais calculer, les ordinateurs te diront comment faire. Bon, et c'est vrai que c'est très risqué, et que par rapport à ça, beaucoup plus de biodiversité, c'est quand même plus sûr à moyen terme.
Nicolas Ouvrard, est-ce que vous avez l'impression quand même que dans le secteur, aujourd'hui, on est un peu plus sensible à ces questions de biodiversité et que, par exemple, en lien avec les phénomènes de réchauffement climatique qu'évoquait Bruno Parmentier, on commence à se rendre compte qu'une trop grande concentration, une trop grande diminution des espèces finit par être contre-productif.
Alors, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience et cette prise de conscience, elle vient des agriculteurs et aujourd'hui on voit qu'elle essaime dans les coopératives agricoles et aussi dans les groupes à la fois agrochimiques et semenciers.
Mais ils font le poids, les agriculteurs, face à ces groupes-là, c'est-à-dire de dire, nous, il faut absolument changer le logiciel parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir.
Oui, parce que jusqu'à... En fait, là aussi, il y a un mouvement en France, là aussi, il y a un mouvement qui est accompagné par le politique. C'est-à-dire que Stéphane Le Foll a travaillé depuis qu'il est au gouvernement autour de la question de l'agroécologie. Ça venait derrière Ecophyto, derrière le Grenelle de l'environnement, etc. Et ces questions sont vécues de l'intérieur par les agriculteurs. Toute la question autour de ce qu'on disait tout à l'heure, des aléas climatiques, des problèmes de sensibilité aux maladies, sont aujourd'hui prises en compte. Et les questions, enfin la reprise en main par l'agronomie, elle est une réalité. Alors, il se trouve que depuis plusieurs années, effectivement, il y a beaucoup de maladies liées à une climatologie au printemps très pluvieuse. Ce printemps, la chose est un peu différente. En fait, effectivement, c'était très pluvieux, mais il y a aussi un deuxième phénomène qui est exceptionnel qui s'est passé, c'est que on a eu une couverture nuageuse pendant un mois et demi quasiment, permanente, et cette couverture lumineuse a réduite en fait limité la photosynthèse. Donc les plantes ont tourné au ralenti à des stades cruciaux, c'est-à-dire au moment de la formation des épis. Donc on a eu une baisse de rendement, mais pas seulement liée aux maladies, liée tout simplement à l'arrêt de la machine de la plante, de la physiologie de la plante. Donc c'est un cas un peu particulier. Alors pour revenir à ce qu'on disait, on a aussi le développement dans ces grands groupes, on en parlait tout à l'heure, on a aussi le développement, l'arrivée du biocontrôle. Alors peut-être que...
Alors biocontrôle, il faut dire en deux mots ce que c'est.
Alors qu'est-ce que c'est que le biocontrôle? Ben, en fait, c'est trouver des moyens pour lutter contre les maladies, notamment, autres que par la chimie. Donc ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons, ça peut être aussi des insectes qu'on va mettre pour lutter contre un autre insecte parce qu'il va le croquer. Je vous donne l'exemple.
Donc on fait plutôt simple. Confiance au vivant plutôt que de faire confiance à la chimie.
Exactement.
Quoi. En gros, c'est ça la philosophie.
L'exemple le plus simple, c'est on met une coccinelle. Les coccinelles vont manger les pucerons. Et donc, comme ça, on se débarrasse des pucerons. Enfin, pour simplifier, c'est ça, mais ça peut être beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, ces grands groupes, sont en train d'investir dans le biocontrôle.
Est-ce que cette logique du biocontrôle, c'est la logique des semences paysannes, Jean-Pierre Lebrun ?
Ben, c'est pas une découverte pour nous, puisque le mouvement des semences paysannes est issu de l'agriculture biologique. Et cette collaboration avec la nature, on la pratique par définition dans l'agriculture biologique. Hein.
Chimie.
Comment ?
Faute de chimie, vous...
On s'est interdit donc l'utilisation de la chimie de synthèse dans la production biologique. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'à partir du moment où on respecte son sol, on nourrit son sol pour que les végétaux qui poussent dessus se développent bien, 90% de nos problèmes parasitaires disparaissent.
Respecter son sol, Jean-Pierre Lebrun, est-ce que ça veut dire, alors puisqu'on parle beaucoup des semences ce soir, avoir des semences qui sont adaptées à son sol et qui ne conviendraient pas à un sol différent, c'est-à-dire parce que sur une aire géographique différente ou sur un relief différent?
C'est toute la différence entre une semence industrielle et une semence paysanne. L'industriel va chercher à développer une variété qui va aller dans le maximum de sol pour pouvoir avoir le marché le plus important. Et le paysan va se concentrer sur la variété qui est adaptée à son terroir, à ses clients, à son goût, à ses besoins.
Et pour conclure, est-ce que vous considérez que vous avez les moyens légaux, justement, aujourd'hui, pour développer ces semences paysannes? Ou bien il y a encore des tracasseries légales et administratives, disons?
C'est une lutte sans fin. Et la plus grosse crainte que l'on a, c'est que nous, dans le travail de nos champs, nous créons de la biodiversité, que M. Bayer passe derrière, nous voit qu'on a sélectionné quelque chose d'intérêt, qui nous le biopirate, ça s'appelle la biopiraterie, qui le fasse une petite modif de plus, qui brevette ça, et que nous-mêmes, on soit obligés de payer des royalties à Bayer parce qu'il aura piqué notre travail.
Finalement, Nicolas Vrard, quand vous dites que voilà que ces grandes industries, quand ces grandes industries s'intéressent de plus en plus aujourd'hui au biocontrôle, finalement, on n'est pas si loin que ça des craintes exprimées par Jean-Pierre Lebrun. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc, Nicole Ouvrard, je rappelle, rédactrice en chef du Betteravier français. Bruno Parmentier, votre dernier ouvrage, si je ne me trompe pas, c'était à la découverte en 2014, Fin zéro, en finir avec la faim dans le monde. Jean-Pierre Lebrun, si on veut en savoir davantage sur le réseau Semences Paysannes, vous pouvez aller sur le site du Grain à Moudre, où on a mis en lien votre réseau. Sur notre site, vous pouvez par ailleurs réécouter l'émission aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an. Vous pouvez aussi poster vos commentaires ou alors sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richet, Mélanie Ferlandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Jean Frédérix. Demain, à la veille de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, nous nous demanderons s'il y a des raisons d'être optimistes en la matière. Tout de suite, ping-pong, Mathilde et Martin pour un survol de votre programme ce soir.